Père Nicolas Sautreau, bonsoir, c'est heureux de vous avoir une nouvelle fois avec nous sur les ondes de Radio Maria France.
Et c'est bien réciproque. Et heureux d'accueillir le cardinal Jean Danielou, qui continue à nous parler de ce que l'éditeur du CERF, lorsqu'il a fait un extrait du gros livre pour parler du baptême et de la confirmation, a appelé l'entrée dans l'histoire du salut. Voilà, ceux d'entre nous qui veulent essayer d'acheter le livre, donc c'est sous ce titre-là, l'entrée dans l'histoire du salut, aux éditions du CERF en 1967. C'est vraiment presque résumé la pensée spirituelle de Jean Danielou que de parler de cette entrée dans l'histoire du salut accomplie par le Christ, entrée dans le mystère de la rédemption, et une entrée qui s'accomplit sacramentellement par le baptême et que nous ne cessons de vivre comme un mystère pascal qui nous fait passer du monde sans le Christ à la communion avec le Christ. Dans cette entrée dans le mystère du salut, le rite que nous allons aborder maintenant nous est un peu plus familier que les autres parce qu'au moins une fois par an, nous le vivons, c'est pendant la veillée pascale, la renonciation au mal et la profession de foi, avec la forme du dialogue que habituellement nous n'utilisons pas le dimanche, le dialogue entre celui qui préside l'assemblée et tous ceux qui vont renouveler les promesses et les grâces de leur baptême. Nous suivons donc l'ordre du cardinal Danielou, même si dans notre manière actuelle de célébrer le baptême, il y aura la place de la litanie des saints et la place aussi pour la bénédiction de l'eau. Mais dans l'Antiquité, il semble que l'ordre n'était pas exactement celui-ci et que nous arrivons déjà à la renonciation à Satan. Le dernier rite préparatoire au baptême, dans ce beau 4e siècle de l'Orient, a lieu en fait durant la veillée pascale déjà, durant la veillée du samedi au dimanche de Pâques. Il s'agit de la renonciation à Satan et de l'adhésion au Christ. La profession de foi trinitaire étant présentée comme une adhésion au Christ. Cela fait partie des rites strictement préparatoires au don du sacrement du baptême lui-même. Saint Cyrille de Jérusalem, que nous avons déjà beaucoup entendu, va commenter ce rite. Et ce qui est impressionnant, c'est que cette étape dans la célébration du baptême est tellement essentielle que nous la trouvons commentée chez tous les auteurs et vécue dans toutes les églises. Jérusalem, Milan, Antioche, Rome, bien sûr Constantinople. L'origine est très très ancienne, on n'arrive même pas à la situer exactement, mais en Afrique, avant l'an 200, nous en sommes certains. Et aux origines, il s'agit d'une vraie abjuration de l'idolâtrie. Il faut quitter le monde des idoles, le monde des divinités païennes, pour embrasser la foi chrétienne. Voilà ce qui nous conduit à penser que cette manière de conférer le baptême est apparue avec le moment où le christianisme a essentiellement baptisé des non-juifs, voilà. Des personnes, adultes ou enfants, qui n'appartenaient pas à la première alliance. Et il fallait commencer par quitter l'idolâtrie. Toujours Saint Cyrille de Jérusalem, qui va commencer à nous parler directement, nous offre ce commentaire. Il nous dit « Tu es d'abord entré dans le vestibule du baptistère, et en te tenant debout, tu étais tourné vers l'Occident, vers le soleil couchant, et tu as reçu l'ordre d'étendre la main droite. » Alors tu as renoncé à Satan comme s'il était présent. Voilà le commentaire de Saint Cyrille. Renoncer à Satan comme s'il était présent. Et tu as dit, je renonce à toi, Satan, à toute ta pompe et à tout ton culte. Donc, dans cette formule, c'est Satan, sa pompe et son culte. Théodore de Maupassant nous aide lui aussi à méditer en nous disant « De nouveau, tu t'es tenu debout sur les peaux de bête, les pieds nus, tu as enlevé ton vêtement extérieur et tu as étendu tes deux mains vers Dieu comme dans l'attitude de la prière. Puis tu t'es mis à genoux et tu as gardé le reste du corps bien droit. Et tu as dit « Je renonce à Satan, à tous ses anges, à toutes ses œuvres, à tout son culte, à toute sa vanité et à tout égarement dans le siècle. Et je m'engage par ce vœu à être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Dans la spiritualité du baptême qui invite à renouveler régulièrement les promesses du baptême, il y a des textes qui ressemblent tout à fait à cela, avec cet engagement de soi-même, en même temps le renoncement et l'engagement de soi-même. Saint Cyrille de Jérusalem reprend la parole dans le texte du cardinal Danielou pour expliquer pourquoi la renonciation à Satan a lieu avec le corps tourné vers l'Occident. Il écrit « Je veux vous expliquer pourquoi vous vous êtes tourné vers l'Occident. Comme l'Occident est la région des ténèbres visibles et que Satan, ayant les ténèbres pour l'eau, a son empire dans les ténèbres, ainsi, en vous tournant symboliquement vers l'Occident, vous renoncez à ce tyran ténébreux et obscur. » Dans la manière de vivre ce moment du baptême, il y a une conversion physique du corps. De quelque manière qu'on se soit installé dans l'église ou dans le baptistère pour vivre le sacrement du baptême, à ce moment-là, on utilise l'orientation de l'église avec le cœur qui est tourné vers l'Orient et le tympan qui est tourné vers l'Occident. Et on va faire changer son corps de direction. Une première fois pour dire non à l'Occident et une deuxième fois se tourner pour être face à l'Orient. Et en fait, ce symbolisme remonte bien au-delà de la naissance de l'Église et de la résurrection du Christ. Dans le paganisme, les anciens Grecs plaçaient à l'Occident, où le soleil disparaît, les portes de l'Hadès, les portes du monde mystérieux de la mort et de cette espèce de vie inférieure qui succède à la vie terrestre. C'est le lieu où demeure la puissance des ténèbres. Et le Christ qui ressuscite à l'Orient montre sa victoire sur la puissance des ténèbres. Mais encore plus que l'attitude physique, la formule de la renonciation est absolument essentielle. Elle est une rupture de l'antique pacte, de l'antique contrat avec l'Hadès, avec les portes de l'enfer. Et désormais, l'âme du croyant ne craint plus le cruel tyran qui la tenait avant en son pouvoir. Le Christ a détruit la puissance de l'ennemi. Il a aboli la mort par sa mort, en sorte que je suis définitivement soustrait à l'empire du mal. On voit le lien immédiat avec les exorcismes, mais alors que dans l'exorcisme, on était beaucoup dans le recevoir, recevoir la bénédiction, recevoir la grâce, ici, il y a une dimension d'engagement, bien sûr, portée par la grâce du Seigneur, mais il y a une démarche volontaire, très personnelle, très intime, qui consiste à briser tout lien avec le monde des ténèbres. C'est le mystère de la libération pascale. Ce qui s'est passé pour les Hébreux lorsqu'ils sont libérés de l'oppression en Égypte va se produire sacramentellement déjà dans cette renonciation au mal et aux ténèbres. Nous sommes tout près de l'acte décisif sacramentel par lequel la libération de la personne va être accomplie. Et comme une préfiguration, comme une pierre d'attente de cette libération par le sacrement même du baptême, la renonciation au mal est là, encore une fois, tout entière, portée par la grâce du Saint-Esprit et par la lumière du Saint-Esprit. Nous écoutons à nouveau Théodore de Maupassant. Puisque le diable à qui tu as obéi a commencé par l'obéissance de ceux qui te gouvernaient, a été pour toi cause de maux nombreux, il faut promettre de te détourner du mal. On est dans l'ordre de la promesse. Et nous faisons tout pour ne pas oublier cette promesse, pour ne pas nous parjurer, pour demeurer fidèle à la promesse et pour demeurer animé par cette promesse, soutenu, vivant cette promesse. Jadis, même si tu l'avais voulu, tu n'aurais pas pu faire cette promesse. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te donne d'accomplir ce vœu. Mais grâce aux exorcismes, aujourd'hui, la sentence divine t'a promis la libération. Et grâce aux exorcismes que tu viens de vivre, tu peux dire « Je renonce à Satan ». Et tu indiques à la fois qu'il y a eu en toi quelque chose qui était de l'ordre de la connivence avec l'ennemi et qu'aujourd'hui, tu veux te détourner, tu veux dénoncer et refuser toute compromission avec les ténèbres. Le geste d'étendre la main dont nous parlent Saint Cyril de Jérusalem et Théodore de Maupassant souligne ce caractère de renonciation. C'est un geste qu'on ne fait plus aujourd'hui, ou peut-être dans certaines liturgies, mais dans la liturgie romaine, on ne demande pas aux catéchumènes d'étendre la main de cette manière-là, comme un serment militaire, comme un serment juridique. C'est un geste qui accompagne dans toute l'Antiquité un engagement solennel avec serment. Ou bien, et voilà qui nous intéresse beaucoup, la dénonciation d'un engagement solennel. Lorsqu'on vient rompre un serment, eh bien, il y a ce geste qui se fait devant le responsable politique ou devant le magistrat ou devant le responsable militaire. Ici, c'est donc peut-être davantage la dénonciation par celui qui veut être admis au baptême d'un pacte quelconque qui le liait avec l'ennemi du genre humain, qui le liait avec les conséquences du péché d'Adam et Ève. Alors le contenu de cette renonciation qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre et qui va nous toucher, je pense, très personnellement. Certaines liturgies très anciennes associent à Satan les anges de Satan. Saint Basile de Césarée, dans son traité du Saint-Esprit, parle d'une renonciation à tous les anges de Satan aussi. Et toujours Théodore de Maupassant, il nous dit « Ces anges ne sont pas les démons d'après moi, mais ce sont plutôt les hommes soumis à Satan dont il fait ses anges, ses envoyés, ses serviteurs, dont il fait ses instruments et dont il se sert pour faire tomber les autres. » Une interprétation étonnante et rare dit de vouloir inviter à renoncer à ceux qui font tomber les autres. C'est le commentaire du scandale des petits dans l'Évangile. Malheur à celui qui va scandaliser un de ces petits, qui va les faire tomber. Eh bien, il faut renoncer à pactiser avec ceux qui ont de propos délibérés l'habitude de faire tomber les petits, de les scandaliser. Ces anges, on peut appeler ça ces anges de malheur, ce sont ceux qui s'appliquent à la sagesse contre Dieu et qui font entrer dans le monde l'erreur de l'incroyance ou l'erreur du paganisme. Ce sont les poètes qui, par leurs fables, font augmenter l'idolâtrie. Mais ce sont aussi les chefs des hérésies qui, parfois sous le nom du Christ, introduisent l'erreur et la non-foi. Renoncer à tout ce qui peut scandaliser, c'est-à-dire détourner de la foi simple, confiante, lumineuse et amoureuse dans le Seigneur. Renoncer à toutes les lectures frelatées, renoncer à tout ce qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, mélanger la vérité et l'erreur au sujet de Dieu, au sujet du Seigneur Jésus. Dans la renonciation à Satan, qui est la nôtre, dans la droite ligne de ce que nous avons vécu le jour de notre baptême, il y a cette volonté de ne pas laisser n'importe quelle doctrine, n'importe quelle lumière, n'importe quel enseignement entrer dans notre cœur, mais de discerner, comme le dit inlassablement saint Paul dans ses lettres, de discerner entre la bonne et belle doctrine et ce qui pourrait conduire aux ténèbres de l'ignorance de Dieu. Viennent ensuite ce qu'on appelle les pompes, le service et les œuvres de Satan. Le mot qui retient le plus l'attention, c'est les pompes, parce que c'est une traduction, une translittération, quoi. Le mot passe directement d'une langue à une autre, le service de Satan, nous comprenons, les œuvres de Satan aussi, mais les pompes de Satan. Le mot fait parfois sourire, parce qu'on va voir qu'il n'y a pas grand-chose qui devrait nous faire sourire dans ces fameuses pompes du diable. Les pompes du diable, d'après Tertullien, ce serait le culte des idoles. Mais les pompes, ce serait aussi le cortège des démons. Et le mot désignerait à ce moment-là non pas des actions, mais des personnes. On renonce à nouveau à ceux qui entourent Satan, à ceux qui sont ses serviteurs, à ceux qui sont ses dévots. Les pompes sont des personnes, d'après cette interprétation-là. Le sens le plus général, pourtant, c'est de dire que nous sommes là face à tout ce qui est de l'ordre des manifestations du culte des idoles. Les processions en l'honneur des dieux païens, les jeux aussi en l'honneur des dieux païens. Tout ce qui est de l'ordre de l'art, de l'ordre de la culture, mais dédié aux dieux païens. Il faut sélectionner là aussi l'art que nous laissons rentrer dans nos maisons et dans nos cœurs. Il faut sélectionner la littérature que nous laissons entrer en nous. Saint Cyrille de Jérusalem, toujours, nous dit « La pompe de Satan, pour toi, c'est peut-être la passion du théâtre, les courses de chevaux dans l'hippodrome, les jeux du cirque et toutes les vanités de ce genre. Puis aussi ces choses qui ont coutume d'être exposées dans les fêtes des idoles. Même les aliments qui font partie du monde des idoles. Tu dois renoncer à tout cela. » Je vous avais dit que nous allions être très très concernés par cette renonciation à Satan. Donc, les séductions, les tentations de Satan peuvent être très très nombreuses, mais ici les pompes, c'est des choses qui paraissent en partie innocentes, puisqu'il s'agit de loisirs, finalement, de jeux et de loisirs. Eh bien, les anciens nous disent, il y a vraiment des jeux et des loisirs qui sont incompatibles avec ton baptême. Et pour pouvoir recevoir le baptême, tu dois y renoncer. Ou bien il y a une quantité de jeux et de loisirs, une proportion de jeux et de loisirs dans ta vie qui est incompatible avec le mystère de ton baptême. Les spectacles du théâtre, de l'hippodrome et du cirque font donc partie de la pompe du diable, en tant qu'ils comportent des actes de culte à l'époque, mais aussi en tant qu'ils peuvent conduire à l'immoralité et à la paresse. Il y a une très grande insistance sur la lutte contre la paresse, la lutte contre l'oisiveté entretenue qui n'est pas compatible avec la vie dans le baptême, avec la vie avec le Seigneur. Théodore de Maupassant, à son tour, dit « Ce qu'on appelle l'égarement de Satan, c'est le théâtre, le cirque, le stade, les combats d'athlètes, les chants, les musiques, les danses que le diable sème dans le monde afin que sous l'apparence d'amusement, il puisse inciter les personnes à aller vers ses ténèbres à lui. » Ici, comment ne pas penser spontanément à Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, qui s'est tellement battu contre les danses, certaines danses de son époque, certaines musiques de son époque, qui a fait fermer les bistrots qui étaient là à Ars, qui a dissuadé les cabaretiers de continuer leur travail. Il y avait cette conviction très très forte chez le Saint Curé d'Ars qu'il y a certains divertissements qui ne peuvent pas être anodins au regard de la foi et au regard de la vie de la foi. Bien là encore, la lecture très assidue, très prolongée des Saint Jean Chrysostome, des Saint Basile, des Saint Jérôme, des Saint Augustin par Saint Jean-Marie Vianney a conduit à vivifier sa prédication et sa pastorale. Et il y a un lien immédiat entre ces très anciens écrivains dont nous parle le cardinal Danielou et quelqu'un de plus proche de nous comme Saint Jean-Marie Vianney. Renoncer au spectacle, à certains spectacles du monde. Les pompes de Satan sont la folie du théâtre où on va voir les farces des mimes remplies d'inconvenances et les danses folles de personnes habillées d'une façon indécente. Le culte du diable, par contre, c'est la prière dans des sanctuaires dédiés à des idoles, c'est de brûler des parfums près de sources prétendument sacrées, c'est de demander la guérison de certaines maladies à des puissances occultes, ce sont les horoscopes, la divination, les signes, les amulettes, les lamelles gravées et toutes les pratiques magiques. Théodore de Maupassant ajoute un long développement au sujet de l'astrologie. Il est interdit de consulter les augures, nous disent ses anciens pères, cela est incompatible avec ta préparation au baptême. Voilà toute cette symphonie de la renonciation aux ténèbres qui est développée par les anciens pères et qui vient nous redire le sérieux de notre vie chrétienne et le sérieux des choix que nous avons à faire entre ce qui conduit à la lumière et ce qui ne peut pas conduire à la lumière. La renonciation à Satan s'appelle l'apotaxie, voilà, le fait de se détourner, et l'adhésion au Seigneur Jésus s'appelle la syntaxie, la syntaxe, le fait de vouloir être associé à un chemin avec le Seigneur Jésus. Quand tu as renoncé à Satan et que tu as rompu l'antique pacte avec les ténèbres, alors le paradis de Dieu s'est ouvert devant toi. Ce paradis que Dieu avait planté à l'Orient et d'où notre premier père, Adam, avait été chassé à cause de la désobéissance. Et le symbole de cela, c'est que tu te tournes de l'Occident vers l'Orient, qui est la région de la lumière. Alors on t'a dit de dire « Je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit et en l'unique baptême de pénitence. » Il faut que la conversion du cœur soit matérialisée par la conversion du corps vers l'Orient, vers le soleil levant. Tu as un genou posé en terre et tu regardes le ciel, cette fois-ci avec les deux mains étendues. La profession de foi dans la direction de l'Orient va s'opposer à la renonciation au mal face à l'Occident. Tu t'es tourné vers l'Orient, celui en effet qui renonce aux démons se tourne vers le Christ et il va regarder le Christ face à face. Cette orientation de la prière tournée vers l'Orient, se trouve ailleurs que dans le baptême, dans la liturgie du baptême. C'est un usage général de se tourner vers l'Orient pour prier. Saint Basile de Césarée le range, cet usage, parmi les traditions les plus anciennes de l'Église. La direction de l'Orient était indiquée dans les lieux de prière et même dans les maisons familiales, dans les maisons de chacun, par une croix qui était peinte sur le mur oriental. Les martyrs se tournent vers l'Orient pour prier et pour offrir leur vie à leur Seigneur et à leur Maître. On tourne aussi les personnes vers l'Orient au moment où elles vont passer dans l'éternité. Au moment de sa mort, pendant que Sainte Macrine s'entretenait avec Dieu, elle ne cessait d'avoir les yeux fixés vers Dieu parce qu'on avait tourné son lit vers l'Orient. Il est établi que la prière vers l'Orient a désigné à ce moment-là une opposition au peuple juif qui voulait se tourner vers Jérusalem pour prier. C'est une manière de se distinguer, comme le dimanche va se distinguer du sabbat, la prière va être orientée vers l'Orient et non pas vers Jérusalem. Et cette orientation de la prière va vouloir manifester que c'est vers le Christ que nous tournons notre cœur. C'est vers le Verbe incarné, le Seigneur Jésus, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, que nous tournons notre cœur pour la prière comme pour la célébration des sacrements. C'est aussi un sens eschatologique, c'est la fin des temps. On se tourne vers la fin de toute l'histoire. Si le baptême est une entrée dans l'histoire du salut, il nous permet aussi d'approfondir notre connaissance de l'achèvement de l'histoire du salut, ce que nous appelons l'eschatologie, la parousie. Comme l'éclair vient de l'Orient, ainsi apparaîtra le Fils de l'homme, dit l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 24e. Les apôtres ont fixé comme une règle que vous devez prier vers l'Orient parce que comme l'éclair apparaît à l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme à la fin du monde. Il y a cette attente de la venue glorieuse du Seigneur et cette attente qui est manifestée aussi pour que nous comprenions que cette venue glorieuse du Seigneur est anticipée par le sacrement du baptême. Le sacrement du baptême comme rencontre avec le Christ glorifié, ressuscité et assis à la droite du Père, comme communion au ressuscité, est une anticipation de la fin de toute l'histoire, du moment où toute la création entrera dans la gloire de Dieu. En Occident, Saint Ambroise de Milan a le même type de commentaire. Il nous dit « Tu t'es tourné vers l'Orient. Celui qui renonce au démon se tourne vers le Christ et le regarde face à face. » Le grand jour ne sera plus éclairé à la fin des temps par le soleil visible, mais par la vraie lumière, par le soleil de justice qui est appelé Orient par les prophètes, parce qu'il n'est plus caché par des réalités crépusculaires. Tournés vers l'Orient, nous regardons Dieu face à face, les yeux dans les yeux. C'est le symbole de la profession de foi. La profession de foi consistant ainsi à regarder face à face le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et à l'occasion de son commentaire, en s'inspirant de Tertullien et de Saint Grégoire de Nice, le cardinal Danielou va nous offrir une perle dans sa façon d'écrire, et il va nous dire cette phrase très très belle. Il nous dit « Ainsi, le Christ apparaît comme le soleil éternellement levant de la seconde création. » Voilà pourquoi cette dévotion à l'Orient, cette nécessité de se tourner vers l'Orient pour accomplir la profession de foi baptismale, le Christ apparaît comme le soleil éternellement levant de la seconde création. Et c'est en l'honneur de ce soleil levant que nous nous tournons vers l'Orient et que nous professons toute notre foi dans le Seigneur né de la Vierge Marie, mort, ressuscité, glorifié, assis à la droite du Père. Cette manière de faire profession de foi en se tournant vers l'Orient va aussi se rattacher au thème du commencement de l'histoire, au thème de la Genèse. C'est le paradis des origines. L'Orient et le paradis sont extrêmement liés, que ce soit le paradis de la fin des temps, le paradis de l'éternité avec Dieu, ou le paradis originel. Le livre de la Genèse ne dit-il pas que le paradis fut planté à l'Orient? Se tourner vers l'Orient pour professer sa foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit va ainsi apparaître comme une sorte de nostalgie du paradis. Saint Basile nous dit « C'est en vertu d'une tradition non écrite que nous nous tournons vers l'Orient pour prier. » Mais nous sommes peu à savoir que nous cherchons ainsi l'antique patrie, le paradis que Dieu planta en Éden. Vous vous levez tous et vous vous tournez vers l'Orient et vous priez Dieu qui est monté sur le ciel à l'Orient en vous souvenant de l'ancienne demeure du paradis qui était plantée à l'Orient, là où le premier homme n'a pas voulu suivre la volonté de Dieu. Et vous, vous venez réparer la faute d'Adam. Ce n'est pas une nostalgie vaine, c'est une nostalgie active. Le paradis peut rouvrir ses portes grâce au Christ ressuscité. Comme si Adam vivait en nous, chaque fois que nous nous tournons vers l'Orient, c'est avec raison que nous disons, comme l'enfant prodigue, pardonne-nous nos offenses. Quand tu renonces à Satan, le paradis de Dieu s'ouvre à toi. Ce paradis que Dieu avait planté à l'Orient et d'où notre premier père, Adam, avait été chassé à cause de sa désobéissance. Et le symbole de cela, c'est que tu te tournes de l'Occident vers l'Orient. C'est un thème important que celui du paradis, que celui du paradis terrestre dans la manière de vivre le sacrement du baptême. Ce qui est perdu à cause d'Adam dans le paradis terrestre est surabondamment retrouvé par la grâce baptismale, par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. En face du personnage d'Adam qui tombe sous la domination du mal et qui est chassé du paradis, le catéchumène, apparaît comme libéré par le nouvel Adam, le Seigneur Jésus, de la domination du mal et réintroduit dans le paradis. C'est toute la théologie du baptême comme étant une libération du péché originel qui est comme gravé dans les rites sacrés du sacrement du baptême. Et cela est vraiment manifesté par ce mystère de l'Orient. Nous pouvons à nouveau marcher vers l'Orient, nous pouvons à nouveau entrer dans le paradis de Dieu, étant totalement libérés du mal, étant libérés de l'influence du mal dans notre existence. Tourné vers l'Orient, tu dois prononcer ton engagement au Christ. Après la dénonciation officielle du pacte conclu jadis par Adam avec Satan, cet engagement constitue l'acte officiel de ton alliance avec le Christ. Il faut avoir cette volonté de s'engager dans l'alliance avec le Christ, de s'engager dans un chemin qui va nous conduire jusqu'au soleil levant éternel. Il faut aller vers cette aurore de la vision béatifique. Il faut aller vers cette aurore de la communion avec Dieu. Et c'est ce que veut vraiment manifester cette cérémonie du soleil levant, cette cérémonie de l'accueil de l'Orient, de l'accueil de la vie qui vient du Christ ressuscité. L'adhésion au Christ est l'acte de foi qui est requis par le baptême. Bien sûr, le contenu de l'acte de foi, je crois en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et vous vous souvenez que l'ancien texte rajoutait « et dans le baptême de pénitence », sous-entendu que je vais recevoir, le contenu de l'acte de foi est infiniment plus important que le retournement symbolique de l'Occident vers l'Orient. Mais cette coutume immémorial d'être vers l'Orient nous permet d'habiter autrement ce moment de la profession de foi, de l'habiter comme étant une espèce de trait d'union entre le paradis terrestre et le vrai paradis de la vie éternelle. La foi qui nous conduit de ce que nous sommes aujourd'hui à cause du péché originel à ce que Dieu veut que nous soyons un jour dans la communion béatifiante éternelle avec lui. La foi est réclamée pour celui qui se présente au baptême. Elle est réclamée pour celui qui promet de demeurer désormais ferme dans la familiarité avec la foi. Les biens sont invisibles, mais la foi doit être d'une certaine manière visible. Dans cette époque très lointaine de la vie de l'Église, avec la renonciation au mal et la profession de foi, c'est toute la préparation au baptême qui s'achève. On a l'impression que c'est un seul mouvement qui a animé toute cette préparation. Maintenant, celui qui va recevoir le baptême, qui a officiellement professé sa volonté d'abandonner toute idolâtrie et de se consacrer au Christ, va pouvoir recevoir le sacrement. Il n'y a pas de conception magique de l'action sacramentelle du sacrement. Seule la conversion sincère et totale permet de recevoir le sacrement. Et cette conversion nous a été admirablement présentée avec ce mouvement qui va de l'Occident des ténèbres à l'Orient du Christ ressuscité. Le Christ apparaît comme le soleil éternellement levant de la seconde création. Et c'est vers le soleil levant que nous allons avec la grâce de Dieu.
Et nous y allons à la lumière des Pères d'Orient. Mon père, félicitations pour avoir prononcé le nom trop peu connu de Théodore de Maupes Ouest sans riper, ce que j'aurais fait plusieurs fois. Et quel sera le prochain thème de l'émission ?
C'est un secret.
C'est un secret. C'est l'art de l'alcôve. Bon, merci beaucoup en tout cas. Rendez-vous est pris pour lundi prochain. Chers auditeurs, c'était notre émission Dieu tellement vivant avec le Père Nicolas Sautreau. Le thème en était la profession de foi. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.